hommes sont passés. Sont passés.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent
noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes
les maisons, les femmes
hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Dans notre malheur, les femmes, une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Connaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse et fière de recevoir Ibtissam Betty Lashgar, qui est une militante féministe universaliste et laïque. Elle est également militante abolitionniste. Elle est membre du collectif contre la porno-prostitution. Au Maroc, elle a fondé le Mali, mouvement alternatif pour les libertés, qui est un mouvement de désobéissance civile, universaliste, féministe et laïque. Elle a été très remarquée en 2009 avec la première action de protestation et de combat pour la liberté de conscience. Courageuse, ses actions ont fait scandale au Maroc et ont permis d'ouvrir le débat sur les libertés individuelles dans ce pays. Betty défend aussi ouvertement la communauté LGBT et la légalisation de l'avortement. Betty n'hésite pas à prendre des positions publiques, courageuses, sur des sujets sensibles ou tabous, dans une société conservatrice où l'islam est religion d'État, d'où intimidation, menaces et arrestations. Elle a aussi initié au Maroc la Journée internationale de lutte contre l'homophobie. Voilà, eh bien, je te remercie vraiment d'être là et je te laisse te présenter.
Donc effectivement, je suis donc Betty, mon prénom. J'ai fondé et je suis coordinatrice, on va dire, du mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc. Et je suis membre du collectif Abolition Porno-Prostitution qui est né en France. Pour mon petit parcours personnel, je suis psychologue clinicienne de formation et je suis spécialisée en criminologie, en victimologie et tout particulièrement dans les violences sexuelles. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai cette casquette militante et cette casquette de psy, voilà. En fait, j'ai la chance que mon engagement professionnel aille de pair avec mon engagement, on va dire, personnel et militant. Ce qui m'a menée au militantisme, à l'activisme, bon, bien sûr, il y a l'éducation, il y a des choses durant mon enfance qui m'ont interpellée. J'étais déjà une petite guerrière, j'étais très indignée, très révoltée enfant, par beaucoup de choses, par la condition des petites filles, puis après adolescentes. Je luttais, on va dire, déjà gamine contre tout ce qui est stéréotype sexiste, évidemment sans connaître ces termes-là, hein. C'était avec mes mots d'enfant, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le sexisme, les stéréotypes fondés sur le sexe, les discriminations quand on est petite fille, quand on est adolescente. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui me mettaient en rogne. Le fait, effectivement, qu'il y avait quand même l'importance de la religion. Bon, dans les années 80, c'était pas aussi important que maintenant, mais tout de même au Maroc, donc voilà. Et donc j'avais plein de questionnements, et c'est ce qui a fait que ça, j'avais déjà une espèce de background, on va dire, c'était un peu écrit. Et puis en fait il y a eu, il y a deux choses importantes dont je parle souvent, qui ont contribué à la Betty militante et activiste qu'on connaît actuellement. C'est le fait que mon père était militant, plutôt militant politique, militant pour les libertés politiques, etc. Mais bon, donc c'est quand même lié aux droits humains, et qui était opposant au régime marocain, qui avait fait de la prison, qui avait été torturé, etc. En tout cas, voilà, il y a eu des valeurs qui ont été, dans lesquelles j'ai baigné, qui ont été véhiculées, et des valeurs de justice sociale, de dignité, de liberté, etc. Donc ça, c'est la première chose qui a fait...
qui t'a influencé.
Voilà, qui m'a influencé beaucoup. Et une éducation laïque aussi, qui nous a été donnée. Et puis, ben, la seconde chose, et non des moindres, je suis une survivante du cancer. Et donc, quand j'ai eu mon bac au Maroc, je suis venue faire mes études en France et à Paris. Et puis, ben, voilà, j'étais... même si je connaissais la France, mais je venais en vacances, donc c'était pas pareil. Et voilà, donc c'était déjà très très compliqué. Et puis au bout de deux ans, enfin de la deuxième année, donc 20 ans, à l'âge de 20 ans, on diagnostique un cancer de l'os, au niveau du bras, bref. Et voilà, et en fait, toute cette année-là, qui a été difficile, donc évidemment j'aurais pu aller à la fac, etc., m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et ça a été une année très très importante pour moi. Ça peut paraître paradoxal, c'est l'une des plus belles années que j'ai vécues, et je pense que sans mon cancer je ne serais pas l'habitude de ce jour, et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui justement pour parler de tout ce que j'ai pu accomplir, et puis de toutes ces causes pour lesquelles je milite. Voilà, donc vraiment mon cancer a été très important dans...
Ta prise de...
Oui, c'était vraiment
ta volonté de te battre pour...
Dans tout ce cheminement, et ma première lutte et mon premier combat, c'est vrai que c'était le combat contre la maladie et contre la mort. Et je pense, voilà, je pense que ce n'est pas rien. Et puis voilà, donc ça m'a permis de, vraiment d'avoir des espèces d'analyse et de réflexion sur beaucoup de problématiques.
Et est-ce que tu peux nous présenter Mali, alors ce mouvement que tu as fondé au Maroc, du coup en 2009, c'est ça ?
C'est ça, un troisième événement qui a été important, c'est que j'étais engagée déjà avant, quand j'étais étudiante déjà, donc à Paris, en France, etc. Mais mon père est décédé en 2008, d'un cancer décidément. Et on savait qu'il était très malade, etc., que ses jours étaient comptés. Et on discutait énormément de tout ça, et des droits humains, des libertés publiques, et puis tout ce qui se passait au Maroc, etc. Et je pense que ce n'est pas rien qu'une année après sa mort, il y ait eu concrétisation de quelque chose. Que j'ai mise en place.
T'es passé à l'action, quoi.
Voilà. Donc, du coup, j'ai eu cette idée, et puis j'ai cofondé avec une amie journaliste de l'époque, Zineb El Razoui. Et donc, en 2009, et c'était pour le petit hasard de calendrier, le mouvement a été créé sur Facebook. C'était vraiment le début des réseaux sociaux, surtout au Maroc, donc c'était surtout Facebook. Et donc on a monté un groupe pour mettre en place, pour visibiliser cette idée et concrétiser, même si c'est virtuel, ce mouvement. Et comme c'était le mois de Ramadan, le premier sujet de discussion sur le compte Facebook qui a été lancé, pas par nous, par les personnes qui étaient sur le groupe, ça a été la liberté de conscience. Forcément, on est en plein mois de Ramadan. Et donc le mouvement est né en 2009, donc j'en parlerai tout à l'heure, je parlerai des différentes actions hein, et des différentes campagnes. Il faut juste savoir, et je tiens à le préciser, que le Maroc est une monarchie absolue de droit divin. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut prêter à sourire, parce que bah, droit divin, donc c'est du tout.
Ça paraît complètement archaïque, mais en fait, c'est... Voilà.
Donc voilà.
Mais c'est toujours le cas, en fait.
Voilà, ouais. C'est ça, donc c'est un peu... C'est un peu la difficulté, justement, lorsqu'on lutte pour l'ensemble des droits humains dans des pays comme le Maroc. Donc, c'est une monarchie, comme je le disais, absolue. Donc, le roi est considéré comme le commandeur des croyants, donc, c'est-à-dire le descendant du prophète. Donc, c'est plutôt un régime autocratique. L'islam est religion d'État. Jusqu'aux dernières élections de 2020, le gouvernement était encore islamiste. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, il faut connaître un peu le contexte. On n'a pas le temps, là, de malheureusement développer. Mais donc, il y a un contexte particulier. Et donc, c'est vrai qu'en 2009, avoir mis en place un mouvement pour évoquer les libertés individuelles, la lutte contre nos revendications, c'est la lutte pour tout l'ensemble des libertés individuelles. Donc, ça va de la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, qui n'existe pas, enfin, ce qui est difficile. Donc, au Maroc, hein, c'est pas quelque chose d'évident. De liberté de circulation, bien sûr, hein, un peu utopique, mais l'abolition des frontières serait l'idéal. Donc, évidemment, la liberté de conscience, l'appel à la laïcité, donc séparation du religieux et du politique. Donc, et évidemment, comme mouvement féministe, hein, c'est un mouvement féministe, universaliste et laïque, de désobéissance civile, donc on y viendra après. Donc, en tant que mouvement féministe, bien sûr, les droits des femmes et les libertés des femmes, enfin, la liberté et les libertés des femmes, et l'abolition de la peine de mort. Voilà, donc c'est beaucoup de choses, et on s'est fait connaître, j'en parlerai tout à l'heure, par la première action en faveur de la liberté de conscience, et puis de nombreuses campagnes et actions en faveur des droits sexuels et reproductifs. Donc en fait, l'objectif du mouvement, c'est vraiment de dénoncer, de condamner les lois et les pratiques sexistes et liberticides, et d'exiger l'abrogation de ces lois. Donc, petite précision quand même, il faut savoir que le Maroc a été longtemps sous le protectorat français, et qu'il y a de nombreuses lois quand même qui ont été mises en place par le maréchal Lyoté, lorsque le Maroc était donc sous protectorat. Donc voilà, je pense que vous avez fait une petite présentation, mais je pense qu'en parlant des actions et des campagnes tout à l'heure, voilà. Donc, ça parlera un peu plus aux éditeurs et auditrices, les actions, choc, coup de poing, tu disais, c'est dans le but de briser les tabous.
On va peut-être d'abord faire une petite pause musicale et justement avec une chanson que tu m'as proposée et La faute à Ève de Anne Sylvestre. Hein. Donc pourquoi tu as choisi cette chanson?
Eh bien, les paroles vont parler d'elles-mêmes.
Tout à fait, voilà. Ok, alors on vous la laisse écouter.
D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui mais c'est la faute Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eva leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Eve. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah,
la révolution sera féministe avec Ibtissam Betty Ashgar, donc qui vient de présenter le mouvement Mali. Donc voilà, on va reprendre. Et entre-temps, j'avais une toute petite question que je lui ai posée. Donc peut-être elle intéresse aussi les auditeurs. Je lui ai demandé, tu nous as parlé de ton père. Et je voulais savoir si sa mère avait eu une influence aussi ou pas.
Alors du coup, j'allais en parler plus tard.
D'accord.
En conclusion d'ailleurs. Parce que, effectivement, ma maman n'a jamais été militante activiste, mais m'a toujours été sensible à ces questions-là. Sinon, d'ailleurs, elle n'aurait peut-être pas épousé mon père, qui était donc activiste lorsqu'elle l'a rencontré, et qui avait déjà donc, qui avait des soucis donc, avec les autorités marocaines, etc. Et mon père, en plus, n'est plus là depuis 2008, et du coup, bien sûr, que ma mère m'est d'un grand, grand soutien. Et pour ça, je voulais en parler plus tard parce que j'avais parlé un peu de tout ce D'accord. que je subis comme menace, etc. Et donc, du coup, en tout cas, l'éducation de mes parents, moi j'ai parlé de mon père parce que je parlais de la transmission de l'activisme et du militantisme, mais l'éducation, c'est mes parents, ce sont les deux,
tous les deux
qui
ouais.
nous ont inculqué cette éducation laïque. Mmh.
Et à l'époque, et l'éducation laïque, c'était courant ou pas?
Bah oui ouais. c'était peut-être plus courant que maintenant où il y a une un peu comme partout dans le monde une montée un petit peu quand même du fondamentalisme religieux, etc.
D'accord. Ok, donc bah justement, on a prévu d'en parler, donc tu revendiques un féminisme universaliste et laïque, et donc je vais te laisser détailler à quel point c'est fondamental, ces valeurs sont fondamentales.
Je voulais juste donner un exemple d'action parce que je voulais le faire en introduction et bon, j'ai parlé plus longuement que prévu parce que je disais que le mouvement est connu pour ses actions choc, coup de poing, etc. Afin de briser des tabous, de toucher à des sujets sensibles, de soutenir les personnes victimes de discrimination, etc. Et en fait, en 2013, c'est pour remettre aussi un peu le contexte marocain. Hein. En 2013, il y a un adolescent, une adolescente dans le nord du Maroc qui avait posté 14 ans. J'ai 14 ans qui avait posté une photo d'un bisou sur la bouche sur Facebook. Et en fait, cette adolescente ainsi que le camarade qui les a pris en photo ont été arrêtés. Et le comble dans tout cela, c'est que c'est une association de défense des droits humains qui a porté plainte contre les adolescents et l'adolescente. Et donc, du coup, je disais en introduction que Mali était un mouvement de désobéissance civile.
Mais au nom de quoi elle portait plainte, cette association?
Ce sont les lois,
ouais,
en Europe. Voilà,
d'accord.
Il y a la pudeur, il y a beaucoup de choses.
La pudeur.
C'est justement ça, attentat à la pudeur.
Ouais, 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 d'accord.
Et donc, du coup, étant un mouvement de désobéissance civile, nous avions organisé un kissing. Et donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez spectaculaire et considéré comme de la provocation. Nous avions organisé un kissing à Rabat, donc la capitale, devant le Parlement. Voilà, donc du coup, c'est juste pour donner un exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit au niveau national et international. Et c'est vrai que ce genre de bruit permet quand même de faire passer les messages et de porter leurs fruits, d'avoir quand même des victoires, puisque là, effectivement, ces adolescents-là, finalement, ont été relaxés, n'ont pas été poursuivis, etc. Voilà, c'était juste pour donner
un autre exemple d'action.
Voilà, alors, pour revenir au féminisme universaliste et laïque, effectivement, donc, le mouvement lutte pour les libertés individuelles, les droits des femmes sans frontières, c'est-à-dire que nous avons une tolérance zéro à une espèce de justification quant aux atteintes aux droits humains et notamment particulièrement aux droits des femmes et des enfants, à savoir de nous trouver des prétextes, pas seulement au Maroc, hein, donc partout, hein, des prétextes culturels, religieux, traditionnels, on dit oui mais c'est comme ça, etc. Voilà, donc c'est pour ça que nous parlons d'un féminisme universaliste, c'est-à-dire pour nous, les droits des femmes devraient être les mêmes pour toutes, et les droits humains donc aussi, pour tous et toutes, quel que soit le pays dans lequel se trouvent donc les femmes. C'est-à-dire que cette dichotomie pays du Nord et pays du Sud
est terrible.
Souvent est terriblement scandaleuse.
Et raciste, finalement.
C'est raciste et colonialiste, parce
tout
que
fait,
quand
voilà.
J'entends des personnes et des féministes anticoloniales, etc., mais qui argumentent sous couvert de relativisme sexuel,
religieux ou culturel, oui.
J'allais parler de liberté sexuelle,
oui, voilà. Ouais.
Voilà, c'est vrai que c'est se soumettre à des injonctions, à des diktats
au nom de certaines traditions,
et
certains peuples devraient être assignés à des traditions patriarcales.
Et du coup, on a l'impression que dans les pays du Nord, les femmes
jamais elles ne supporteraient ce monde de liberté.
Et puis finalement, on doit encore se soumettre à des oppressions, et notamment des oppressions patriarcales et misogynes, sous couvert de certaines traditions rétrogrades, etc.
En fait.
Donc c'est dans ce sens-là, c'est vraiment l'oppression des femmes est partout, et on doit lutter pour les droits des femmes et contre ces oppressions partout dans le monde. Et donc, pourquoi j'ai choisi la chanson de Anne Sylvestre, c'est parce que donc, nous sommes un mouvement laïque et qu'effectivement, lorsque on nous met souvent sur le devant de la scène et sur le plateau cet argument religieux, et notamment au Maroc, voilà, la religion est importante, le pouvoir religieux est vraiment là, est vraiment ancré, est vraiment en place, institutionnalisé, etc. Ben, nous n'acceptons pas ces arguments, en fait. C'est-à-dire que la religion ou la croyance ou la foi doit relever de la sphère privée. C'est une affaire personnelle. Donc, quand nous luttons pour les droits humains et les droits des femmes en particulier, nous parlons d'un référentiel universaliste et nous parlons de droits. La religion n'a pas... Les religions n'ont pas leur place lorsque nous parlons des droits humains et encore moins des droits des femmes, parce que faut-il encore le rappeler que l'ensemble des religions sont misogynes. Donc c'est une réalité. Et puis d'ailleurs, lorsque nous menons des actions, des campagnes, etc., dans notre travail militant au quotidien, nous avons des réseaux, des raisons d'activistes, de collectifs, d'associations à l'international. Parce que la nationalité, la religion, la citoyenneté, la couleur de peau importe peu, en fait.
Tout à fait.
Voilà, on n'a pas à prendre
mais sans universalisme, les droits humains, c'est un concept qui est intrinsèquement lié aux droits humains. Donc, en fait, parler de relativisme, comme par hasard, que pour les droits des femmes, pour les faire régresser.
C'est
et les droits des hommes, on n'en parle jamais.
C'est exactement ce que j'allais dire. Donc,
et moi aussi,
elles sont souvent les premières victimes avec les enfants.
Voilà. Si je peux dire aussi, au niveau des religions, c'est vrai que le féminisme, souvent, trop souvent, refuse d'entrer ou n'est pas assez entré en guerre contre les religions qui est pourtant un des principaux obstacles culturels aux droits des femmes. Ce que j'admire vraiment, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi et que je suis fière, c'est que voilà, c'est tellement rare et c'est tellement important. Et donc, toi, tu oses vraiment te confronter.
C'est ça. C'est vrai que ça a été très difficile, surtout en 2009. Ça va mieux maintenant, on est en 2021. Il y a plusieurs collectifs, plusieurs associations maintenant qui parlent de tous ces sujets. Mais c'est vrai que nous étions un petit peu, entre guillemets, à l'avant-garde, même si cette expression est un peu... je ne suis pas très, très fan non plus. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a plein de sujets sur lesquels nous avons évoqué et que c'était effectivement... tout nouveau en fait, donc c'est vrai que c'était un peu difficile, puis en fait que ce soit deux femmes en 2009 pour l'action dont je vais parler tout de suite, la liberté d'expression et d'opinion est aussi une de nos luttes centrales. La liberté de conscience, je la considère comme le pilier de toutes les libertés individuelles. La liberté de conscience n'existe pas au Maroc, hein, il faut le savoir. Nous ne pouvons pas choisir notre religion, nous ne pouvons pas changer de religion, nous ne pouvons pas en avoir.
Vous naissez musulmane.
On est de confession musulmane et on meurt de confession musulmane. Mis à part les quelques personnes marocaines de confession juive qui restent encore au Maroc, mais c'est de l'ordre de 2500, je crois, en personnes. Voilà, donc les personnes juives ont quitté le Maroc, etc., au fil des années, mais... Donc, lorsqu'on parle de liberté d'expression, d'opinion, etc., voilà, pour nous, c'est universaliste et ça concerne les religions. Et c'est pour ça que j'ai choisi la chanson tout à l'heure de Anne Sylvestre, parce qu'elle est représentative de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. C'est que les religions ne doivent pas être sacralisées, que les croyances n'ont pas à l'être non plus, qu'on peut les critiquer, qu'on peut les attaquer, qu'on peut se moquer. Et puis qu'on voit bien dans la chanson que ce sont les femmes qui sont coupables et responsables
de tout.
Tous les maux, etc.
Et quelles que soient
les religions, donc, hein, oui. Le judaïsme n'est pas en reste, oui. L'islam, le catholicisme.
Il suffit de lire tous les textes de toutes les religions.
Exactement.
Je l'avais fait une fois, je m'étais pris la peine de le lire un petit peu, les textes, des extraits, et c'est complètement incroyable.
De toute façon, elles
disent toutes la même chose.
La même chose. Donc, voilà. Il y a eu le judaïsme, ensuite il y a eu le christianisme, etc., puis il y a eu l'islam après. Elles ont la même lignée, quoi, on va dire. Et donc, c'est pour ça donc, qu'on lutte contre aussi l'inquisition socio-religieuse qui est bien, bien, bien présente au Maroc, avec l'hypocrisie sociale. Il y a beaucoup de choses, en fait. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mener une action... la première action donc de 2009, comme je le disais, vu que c'était en plein mois de Ramadan et que les discussions sur Facebook tournaient autour de cette question de Ramadan, j'aimerais que les auditeurs et les auditrices sachent qu'au Maroc, il y a un article qui est l'article 222 du code pénal marocain et qui condamne toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam et qui rompt ostensiblement le jeûne pendant la journée du mois de Ramadan. Donc cet article, non seulement est liberticide, c'est du fascisme religieux, il faut le dire clairement, mais en plus, il n'est pas très clair juridiquement, parce que toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on sait que... au Maroc, il n'y a pas la religion sur les papiers, etc.
C'est donc, complètement hypocrite, en fait, parce que...
En fait, ça nous démontre que c'est parce que, de toute façon, on est considéré comme personne musulmane, point à la ligne. Et puis, qui rompt ostensiblement le jeûne en public durant la journée de Ramadan. Donc, c'est quand même jusqu'à 6 mois de prison ferme. Et chaque mois de Ramadan, cet article est tout de même appliqué. Donc, il y a quand même des personnes qui sont... arrêtées et détenues parce que elles ont mangé ou fumé une cigarette, etc. Enfin, c'est assez hallucinant et une écrasante majorité des personnes de l'opinion publique adhèrent en fait à cet article de loi donc on appelle évidemment son abrogation et puis depuis qu'on a fait cette action en 2009, le débat a été ouvert, c'est aussi une de nos victoires, c'est qu'à chaque fois le débat est ouvert lorsqu'on jette un pavé dans la mare, et puis au fil des années le sujet est repris par d'autres et c'est ce qu'on veut, c'est que les médias reprennent les sujets, que d'autres associations...
On n'est pas obligé d'être assigné à une certaine culture religieuse, ça peut évoluer en fait.
C'est surtout
si on lutte,
abroger des lois liberticides et voilà, ça c'est quand même. On est quand même dans une dictature religieuse, mais comme c'est très tabou, c'est vrai que le mouvement Ali a été le premier. Le mouvement Ali a été le premier à évoquer cette question, et puis on est ravis de voir qu'il y a une démocratisation maintenant au bout de quelques années. Et puis voilà, bon, donc en tout cas. Cette histoire de liberté de conscience qui touche beaucoup, beaucoup les personnes agnostiques et ou athées. D'ailleurs, souvent, il y a un amalgame qui est fait. Le mouvement Mali est un mouvement laïque et les haters, comme on dit, des tracteurs, des tractrices, etc., accusent, comme si c'était une accusation, donc je mets des guillemets puisqu'on ne me voit pas, le mouvement d'être athée. Parce qu'effectivement...
Il y a
une grande confusion, mais aussi parce que, étant par exemple moi-même athée, et puis c'est vrai qu'on entend souvent les personnes athées parce qu'elles sont concernées, donc on les entend plus, et donc voilà, donc il y a cette espèce d'amalgame, et du coup, nous
alors qu'en fait, la laïcité, c'est juste de séparer
le religieux du politique, puisque au Maroc, la loi, les lois, quelles qu'elles soient, découlent de.
Que le
du religieux,
voilà, tout à fait.
Du Coran,
Et justement, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la charia, les lois sexistes et liberticides concernant les femmes, voilà, la polygamie, l'héritage, etc.
Comme je disais, ça vient de voilà, les lois viennent de la charia. La charia signifie loi islamique, j'insiste, parce que sur les réseaux sociaux, j'entends de tout, enfin, je lis de tout et du n'importe quoi. Et je suis même moi-même, alors que je suis concernée, que je maîtrise quand même ces sujets, attaquée, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que la charia, c'est ce qui se passe
dans les
L'Iran,
pays.
Afghanistan, l'Arabie Saoudite, couper les mains, etc. Oui, ça fait partie de la charia. Mais effectivement, au Maroc, on ne coupe pas les mains des voleurs. Mais tout le reste. C'est la charia. La charia signifie juste loi islamique. Et les lois au Maroc viennent dépendre des lois islamiques.
De la même...
Donc voilà, du Coran.
Ce sont les mêmes lois islamiques qui sont pareilles partout, sauf elles ne sont pas forcément appliquées dans
exactement.
Tous les pays.
Donc c'est exactement ça. Mm-hmm. Et donc voilà, donc, du coup, la polygamie existe au Maroc. L'ancien ministre des droits humains, qui était ministre de la justice avant, ministre de la justice et ministre des droits humains, ministre de la justice et des libertés et ministre des droits humains ensuite, il était bigame. Enfin voilà, donc il y a l'inégalité dans l'héritage. Donc ça, c'est une réalité. Donc il faut lutter contre toute forme de violence, contre les femmes, et les violences économiques en sont. Et donc voilà, donc l'égalité dans l'héritage, c'est long, là on n'a pas le temps, mais il y a encore le chef de famille, voilà, ça reste l'homme, le patriarche, le tuteur des enfants, c'est l'homme, c'est le père.
C'est lui qui a l'autorité,
la femme n'a pas. Ça. L'adoption n'existe pas non plus, donc n'oublions pas les droits des enfants, donc l'adoption n'existe pas, donc c'est ce qui s'appelle la kafala, donc c'est une tutelle, parce que l'adoption est interdite en islam, donc il y a quand même, voilà, c'est très compliqué pour les enfants. Enfants privés de famille, qui sont en institution orphelinat entre guillemets, j'aime pas ce terme, je le trouve très péjoratif. Et donc voilà, le fait que les femmes qui ont des enfants hors mariage, comme ça interdit, les enfants n'ont pas de reconnaissance quand même juridique, c'est très très grave, c'est scandaleux, c'est révoltant. Donc les enfants sont considérés comme des bâtards, c'est dans la loi quand même.
Donc tout ça, c'est le code pénal marocain, en fait.
Code pénal, code de la famille,
qui est inscrit dans la loi, l'assujettissement des femmes,
Exactement. Donc il y a le droit à l'avortement, j'y reviendrai. Enfin voilà, donc une société conservatrice, sexiste.
Pour le divorce aussi, tu m'avais dit, qu'est-ce qui se passe?
C'est très très compliqué également, surtout quand on a des enfants. Donc du coup, parfois, si la femme... divorcée veut se remarier, il faut que l'ex-mari, c'est-à-dire qu'elle dépend quand
même si elle est déjà divorcée de lui.
Si elle est divorcée de lui, qu'ils ont des enfants, si l'ex-mari n'accepte pas qu'elle se remarie, elle ne peut pas se remarier, sinon elle perd la garde des enfants. Voilà, donc il y a
donc elle a le choix, elle n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, voilà, du coup, elle est otage si elle veut garder ses enfants. Ouais.
Voilà, donc du coup, il y a plein d'exemples dont j'y reviendrai en tout cas tout à l'heure.
Oui, parce que là, donc, on va faire on a prévu ensemble une petite pause musicale pour faire un petit peu de respiration avec des chansons qui sont aussi adaptées et que tu as choisies. Donc je vais vous la faire écouter tout de suite.
Thank you. الآن يرتاح ماهيش كالون مستني المفتاح قولوا لأبوها ضحكوا عليك ضحكوا لشرفها بين رجليها ولا يحكوا
قولوا لأبوها ضحكوا عليك ضحكوا لشرفها بين رجليها ولا يحكوا قولوا لأبوها إن كان تعبان يريح في المطر وأصمم من المفلح قولوا لأبوها دي البلد
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, vous écoutez Ibtissambeti Ashgar. Pourquoi tu peux nous dire deux mots sur cette chanson, peut-être ?
Oui, alors donc c'est une chanson d'un groupe de femmes, de féministes, artistes égyptiennes qui s'appelle Bint al-Masarwa. Et la chanson s'appelle Oulul Abouha, dite à son père. Et en gros, je vais juste reprendre le refrain qui dit dite à son père que son honneur, l'honneur de sa fille en tout cas, l'honneur de sa fille n'est pas entre ses jambes. Voilà. Et donc voilà, donc c'est très important par rapport à ce qui va suivre, puisque j'aimerais parler du contrôle du corps et de la sexualité des femmes.
Et tu as beaucoup de choses à dire.
Voilà, donc je vais essayer de résumer un petit peu. Lorsqu'on parle du contrôle du corps et de la sexualité des femmes, il y a plusieurs choses. Il y a de façon planétaire, hein, il y a. Le voilement, hein, le voile, qui est donc un grand sujet de discussion, qui crée beaucoup de polémiques dans pratiquement tous les pays. Moi, mon positionnement sur le voile, c'est que je critique évidemment et je condamne le symbole que ça représente, qui est pour moi un outil d'oppression sexiste par définition, puisque de toute façon, ça ne concerne qu'un seul sexe. Et que les injonctions qu'il y a derrière sont des injonctions patriarcales et de couvrir encore le corps des femmes qui seraient impures, etc., etc. Et puis les femmes, le corps des femmes, les cheveux des femmes, exciterait les hommes. Voilà, donc ça participe quand même clairement à la culture du viol, de la banalisation du harcèlement sexuel, tout serait de la faute des femmes, etc. C'est une stratégie de division des femmes. Il y a des femmes
ségrégation.
Bien, des femmes pas bien. Voilà, donc la ségrégation, elle est générale, malheureusement. Mm. On sépare les femmes des hommes, etc.
Oui.
Mais
là, c'est vraiment... Ah oui, tu veux dire entre les femmes.
Entre les femmes, ouais, voilà. C'est une stratégie patriarcale à chaque fois de diviser les femmes, de diviser les opprimées, finalement, pour mieux régner.
C'est un peu la maman ou la putain,
c'est
je crois que tu disais.
Putain,
mais
exactement, en quelque sorte. Et donc voilà, donc du coup, il y a cette histoire de voilement. Et je voudrais donner un petit exemple qui était, je crois, en 2018. Il y a eu toute une campagne lancée sur les réseaux sociaux par des hommes au Maroc qui était soit un homme libre, c'était le hashtag, soit un homme libre. Et la suite du hashtag, c'était soit un homme libre et couvre tes femmes. Et en fait, on a fait une grande campagne qui a beaucoup buzzé, enfin une contre-campagne du coup. Malia a mené une contre-campagne qui s'appelait « Soit une femme libre » et c'était le hashtag « Soit une femme libre ». Et c'était pour lutter contre ces injonctions sexistes et patriarcales. Mmh. Hein. Il faut savoir, parce que les gens ne savent pas faire la différence, que nous ne sommes pas là pour dévoiler les femmes. Mmh. Nous sommes abolitionnistes,
bien
nous ne sommes
sûr.
Pas prohibitionnistes.
Tout à fait, on ne s'en prend pas aux femmes en fait.
Exactement,
bien sûr.
Ça c'est très important de le rappeler. Donc nous luttons contre des idéologies misogynes et patriarcales, contre symbole contre
bien
des
sûr.
Systèmes et pas contre des personnes et encore moins contre les femmes et parce que
tout
nous
à
ne
fait.
Sommes pas là
ça serait une aberration quoi l'abolition
ce
c'est
serait pas féministe
voilà
nous ne sommes pas là pour
c'est comme
les
abolition enfin abolition de pardon ouais de l'esclavage c'est pareil voilà.
Donc nous ne sommes pas là pour attaquer les femmes et les culpabiliser et non il y a des responsables il y a des coupables ce sont souvent des hommes mais c'est un système. Et donc voilà, donc c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on a mené cette campagne. On fait beaucoup d'éducation populaire. Donc nous avons été sur le terrain rencontrer les personnes, hommes et femmes, pour connaître un peu enfin, discuter et débattre un peu et savoir si il et elle étaient au courant de ces campagnes, de ces contre-campagnes, de ce qui se passait. Donc on a rencontré des personnes de tout milieu. Et,
vous
et,
alliez et sur quel lieu
Un lieu public, espace okay. public, rue, plage, c'était l'été.
C'est génial.
Août. Ouais. Et voilà, et d'ailleurs, il y a une photo qui avait fait grand bruit parce qu'un un journaliste espagnol m'avait prise en photo lors d'un débat avec une femme complètement voilée, c'est-à-dire en niqab, quoi. On voyait que ses yeux sur la plage. Mmh. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis pour revenir au thème de la chanson qu'on vient d'écouter, il y a le mythe patriarcal de la virginité féminine qui est aussi quelque chose d'essentiel parce qu'il y a de nombreuses conséquences qui découlent de ce mythe patriarcal et on a mené deux grosses campagnes de lutte contre la pratique rétrograde et sexiste de ce qu'on appelle les tests de virginité, donc une campagne qu'on a menée en décembre 2018 et une très récente en février 2021. Et parce que, voilà, donc, du coup, bah, la campagne, par exemple, de 2018, on l'avait appelée « Ma vulve m'appartient », et ben voilà, c'est qu'on lutte pour les droits sexuels et reproductifs, on lutte pour la liberté sexuelle des femmes. Il faut savoir qu'au Maroc, les relations sexuelles hors mariage sont interdites par la loi, hein, par le code pénal, l'article 490. Les relations homosexuelles également, c'est l'article 489, et l'adultère par l'article 491. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de liberté sexuelle, et notamment dans les relations hétérosexuelles, ce sont les femmes qui sont victimes de ces articles de loi liberticides.
Bien sûr.
Elles devraient être appliquées. Enfin, on est contre, évidemment, mais je veux dire, elles sont là pour les deux
aussi
sexes.
Aussi pour les hommes, mais en fait, dans les faits, ce sont les femmes.
Dans les faits, ce sont les femmes. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de conséquences par rapport à ce mythe de virginité des femmes. Donc, la virginité ne veut rien dire. Il faut rappeler que seules les femmes, la femme elle-même concernée, sait si oui ou non elle est vierge, entre guillemets. Personne ne peut le savoir, même pas les médecins, même pas les gynécologues. Et malheureusement, il y a beaucoup d'abus, pas seulement au Maroc, hein, également en Europe, en France, etc., avec des certificats de virginité. Oui. Et ça, c'est un scandale, ouais. Parce que ça n'a pas de validation scientifique, de un, et de deux. Remettre des certificats de virginité,
c'est encourager, quoi.
C'est encourager cette culture du viol. C'est jeter cette femme dans les bras, les mains, les bras de son bourreau et de sa famille. Enfin, c'est une violence extrême. Et il y a un article dont on demande l'abrogation dans nos campagnes, qui est l'article 488 et qui dit du code pénal marocain. L'article dispose de ce qu'on appelle la défloration. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose de violent. Ce qu'on appelle la défloration, donc c'est-à-dire la perte de virginité, qui n'existe pas. Donc l'article 488 dispose de ce qu'on appelle la défloration, qui autorise la pratique du test de virginité légalement, c'est-à-dire par des experts, des tests de virginité sur les filles et les femmes qui sont victimes de viol et qui infligent par conséquent des peines plus sévères à l'agresseur selon la supposée virginité ou non de la victime. C'est ignoble. Donc déjà, les victimes de viol, du coup, on va faire cette pratique de test qui s'apparente à un viol, à de la torture, etc., qui en plus n'a pas de validité. En plus, c'est pour dédouaner le violeur. Donc encore une fois, il y a des femmes bien, des femmes pas bien. Donc supposément, tu as déjà eu des relations sexuelles avant. Donc c'est moins grave.
D'accord.
Donc voilà. Et on a mené une campagne contre le viol conjugal parce que c'est rageant. C'est-à-dire que quand on a des relations sexuelles entre deux adultes qui le souhaitent, qui le désirent, c'est interdit. En revanche, le viol conjugal est permis parce qu'il n'est pas considéré comme un viol, mais considéré comme un devoir des épouses. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Les épouses ont pour devoir d'avoir des relations, c'est écrit aussi ça.
En tout cas, c'est pas criminalisé puisque le viol conjugal n'est pas reconnu. Et puis de toute façon, ça découle des religions.
Tout à fait.
Et puis par rapport aux droits sexuels et reproductifs toujours, le droit à l'avortement. Donc on a mené beaucoup d'actions, beaucoup de campagnes. La plus grosse campagne, c'était en 2012, Et nous avons invité une ONG néerlandaise. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on essaye vraiment de faire appel à des réseaux, des actions, voilà, pour montrer que voilà, c'est
international.
Ce sont des droits bafoués, les droits de femmes sont bafoués partout. Et cette ONG néerlandaise, justement, va dans tous les pays où l'avortement est interdit pour mener des actions avec un bateau. Ce qu'elles appellent le bateau de l'avortement, l'ONG s'appelle Women on Waves.
Et
c'est
la
première fois que le bateau allait dans un pays où l'islam était religion d'État. Pour la petite info, c'est grâce à une action de Women on Waves qu'en Espagne, ça avait été dépénalisé. Donc il y a quand même des victoires. Et donc voilà, donc on a mené cette action, cette campagne et cette action d'appel à la dépénalisation de l'avortement. Et non au cas par cas. Alors ça aussi, c'est un positionnement qu'on a au sein du mouvement, c'est que c'est un mouvement pro-choice, pro-choix. Donc c'est-à-dire, on lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps, et non au cas par cas. Là, au Maroc, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a des discussions autour de cette question d'avortement. Il y a même un projet de loi dans les tiroirs depuis 2015, mais il faut savoir que ce projet de loi, déjà, il a été mis en place par le roi, qui est un homme, qui a appelé d'autres hommes. Voilà, donc comme souvent, comme ça a été le cas en Espagne, quand ils ont voulu... Ouais. Des hommes,
mais un peu partout dans le monde,
voilà, aux États-Unis. Et donc voilà, donc c'est un projet fait par des hommes et qui en plus n'évoque pas concrètement le droit à l'avortement, à savoir le droit des femmes à disposer de leur corps et cette le libre choix. C'est plutôt au cas par cas, donc victime de viol, etc. Le fœtus, voilà, s'il y a une malformation du fœtus, si la vie... Bon, alors au Maroc, actuellement, il y a l'avortement thérapeutique si la vie de la femme enceinte est en danger. Et la santé ou la vie est en danger. Mais il faut l'autorisation du mari. Enfin, c'est quand même comble.
D'accord.
Même si sa vie est en danger et que le médecin le dit, il faut l'autorisation du mari. Et donc, le projet à venir, c'est viol, etc. Et non, c'est pour toutes les femmes. Encore une fois, pourquoi diviser les femmes? Donc, encore une fois, il y aurait des femmes plus victimes que d'autres, des femmes qui auraient plus le droit que d'autres.
C'est tellement restrictif. Ça veut dire que la femme n'a pas...
C'est encore soumettre
au patriarcat. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix aux femmes. En fait, c'est juste qu'on décide si, oui, effectivement...
Non,
si...
on se soumet à des... encore une fois, au patriarcat, la domination masculine qui décide que certaines femmes, oui, d'autres non. Enfin, c'est très compliqué. Ça parle aussi d'ouvrir l'avortement aux femmes victimes de viol, mais quand on sait comme c'est complexe de porter plainte et d'être cru quand on est violé, enfin c'est non. Et puis de toute façon, tout ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. Nous voulons que ce soit dépénalisé. C'est un droit fondamental. Et donc, il suffit cette aliénation du corps des femmes par les institutions, par les politiques qui sont des hommes, par les médecins, enfin voilà. Et en plus au Maroc, on fait appel aux religieux, donc, voilà, les imams, enfin non, non, personne n'a décidé. Donc voilà, pour rester un petit peu, j'essaie de faire vite, hein, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais les droits sexuels et reproductifs, nous avons mené donc plusieurs actions en faveur de la liberté sexuelle et des droits des personnes LGBT et contre l'homophobie par rapport à cet article de loi dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc voilà, donc nous avons mené des actions de rue. C'est vrai que du coup, c'était une question qui n'était pas traitée, en fait. Cette question de liberté sexuelle et particulièrement la lutte contre l'homophobie et la lesbophobie, etc. Donc,
n'était pas du tout traité au Maroc.
Voilà, du coup, on a fait des grosses campagnes et des grosses actions et on a pris la rue, ce qui était une première, voilà, d'aller dans les rues, même si on n'était pas nombreux et nombreuses, et de faire des actions symboliques avec le drapeau, par exemple, devant le ministère de la Justice, devant le Parlement, etc., etc. Donc, il y a eu ça, la mise en place, voilà, de, comme tu disais en introduction, le 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre la LGBTphobie. Donc, voilà, donc j'ai initié le 17 mai au Maroc. Voilà, donc, mais c'était le début. Maintenant, il y a plusieurs collectifs, etc., qui sont mis en place. Mais comme je disais pour les autres sujets, c'est vrai que, voilà, ça a été un peu le premier mouvement à mener cela. Et puis, on continue à lutter. Je sais que c'est très compliqué en Europe, etc., avec ce qui se passe dans cette lutte LGBT. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de séparations parce qu'il y a le transactivisme, etc. Moi, je voulais juste parler de mon expérience personnelle. Avant qu'il y ait Mali, etc., j'étais engagée déjà depuis le début des années 90. et puis fortement engagée donc, dans les années 2000. Et en fait, il n'y avait pas cette question-là. Donc la lutte pour les droits des personnes LGBT, c'est une lutte globale et il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas... De conflits avec le mouvement féministe. Enfin, ça, c'était le même mouvement presque. Enfin non, ça allait de soi.
Les droits des trans n'interféraient pas sur ceux des femmes.
C'était des droits et tout se passait. Donc c'est vraiment des revendications. Et c'est vrai que je suis très très surprise, peinée et choquée de voir ce qui se passe, notamment en Angleterre, en Espagne, en France,
un peu partout maintenant,
aux États-Unis. Mais voilà, j'espère qu'au Maroc ça ne viendra pas. Il y a des personnes qui adhèrent à l'idéologie transactive, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de violence, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose effectivement qui est difficile pour moi et est difficile par rapport à tout ce que j'ai déjà vécu. J'en parlerai tout à l'heure du harcèlement, etc. Des violences, des menaces en raison de mes positions déjà. L'ensemble de mes positions et de mes idées, de mes positionnements, notamment la question LGBT. Et voilà, et donc ça me renvoie...
Juste dire que l'idéologie transactiviste, ça ne s'agit pas de défendre les droits des trans, mais c'est carrément autre chose.
C'est juste parler des droits des femmes. Donc l'oppression des femmes n'est pas la même que l'oppression des personnes trans. Il y a des choses quand même complètement différentes, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de voir que certaines militantes, certaines féministes... sont devenues des personnes un peu à abattre parce qu'il y a une sacralisation d'une idéologie. Et je sais que même en disant idéologie, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ne vont pas être d'accord, qui vont dire non, c'est pas une idéologie, etc. Moi, je le ressens comme ça. Ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire. Les idées, pour moi, c'est un ensemble d'idées, et que des idées, c'est comme la religion. On a le droit de les critiquer. Elles doivent être soumises à la critique.
Tandis que là, ça donne lieu à des violences.
On n'attaque pas des personnes. Voilà. C'est exactement comme ce qu'on nous dit, nous reproche pour les religions.
Exactement.
Pour l'islam, en tout cas, vu qu'au Maroc, c'est l'islam. Et de dire, oui, vous attaquez les personnes croyantes, les musulmans, les musulmanes, etc. Donc là, on attaquerait les personnes non, ou les femmes voilées. Je le disais tout à l'heure, je parlais du voilement comme symbole. Et donc, je n'attaque pas les femmes voilées.
On n'attaque pas les personnes trans, en fait. On s'attaque à une idéologie. Voilà. Et la plupart des personnes trans ne sont pas d'accord avec cette idéologie.
Des idéologies, des systèmes, des symboles, aucunement, il n'est aucunement question de parler de personnes ou de leurs droits. Les droits humains sont pour toutes et pour tous, c'est ce que nous revendiquons. Donc, c'est juste pour dire que... nous ne sommes pas obligés d'adhérer à des croyances, quelles qu'elles soient, et que toute croyance doit être soumise à la critique, et sans que l'on soit victime d'une cabale, qu'on soit considéré comme des personnes hérétiques, mécréantes, etc.
Ah, alors on a prévu une petite pause musicale justement que tu as choisie et du coup on va la passer. C'est comme Chanson sans peur, qu'on aime beaucoup toutes les deux. Donc je vous la laisse écouter.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reposo.
enfurecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy
compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
Y petit Sambeti Lajgar.
Oh, pardon.
Voilà, tu...
Je vais continuer un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure et pour parler des violences sexistes et sexuelles. Donc, enfin, j'ai déjà donc parlé des violences, commencé à parler des violences sexistes. Et d'ailleurs, cette chanson est symbolique du terrorisme patriarcal, des violences machistes, puisque ça parle des féminicides, etc., des disparitions de femmes. Notamment en Amérique latine, Amérique du Sud, et donc féminicide de manière donc malheureusement mondiale. Je voulais juste dire que dans nos luttes, il est essentiel de prendre la rue. C'est quelque chose d'important en fait. Le féminisme, le militantisme sur les réseaux sociaux 2.0 est essentiel, ça c'est clair. Mais je regrette que dans la nouvelle génération, souvent, pas toutes, hein, y a plein de manifs qui sont faites, qui passent des réseaux sociaux à la rue. Et peut-être que je parle de ça parce qu'au Maroc, c'est la première action qu'on a menée, c'était la première fois que dans la région de Moyen-Orient, Afrique du Nord, on est passé du réseau social à la rue. On avait lancé cet appel sur le réseau social, sur Facebook, et lancé ce mouvement. Et après, on est passé à la rue. Moi, je pense que c'est très important pour les femmes qui sont donc reléguées à la sphère privée, notamment dans des sociétés donc machistes, conservatrices, de s'accaparer
d'être visible
et d'être dans de prendre la rue. Et il ne faudrait pas que les féministes 2.0, dont moi qui suis quand même énormément sur les réseaux sociaux, qu'on se laisse prendre à notre propre piège et qu'on soit cantonné derrière.
Parce que sinon on est trop entre nous aussi.
Déjà, on n'est pas dans la rue, donc on laisse encore l'espace public
masculin. Tout à fait.
Et donc voilà. Donc du coup, au Maroc, en 2019, je voulais juste en parler. Il y avait une initiative qui a été faite donc à Paris par Oser le féminisme, mais pas seulement à Paris. Après, il y en a eu d'autres dans d'autres villes de France. Et donc, on a changé le nom des rues à Rabat. Et donc, c'est une action qui a fait grand bruit parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'original, quelque chose effectivement qui paraît un peu, enfin presque banal en Europe, mais voilà, au Maroc ça a fait grand bruit dans les médias internationaux parce que voilà, ça s'est fait au Maroc.
Non, c'est pas banal, je trouve ça super.
Oui,
et voilà.
Non, j'ai pas dit que c'est banal, mais en tout cas ça fait pas un buzz énorme quand c'est fait en France. Là, comme ça a été fait au Maroc, c'est les médias internationaux en ont parlé parce que symboliquement, c'est ce que je veux dire, symboliquement ça avait vraiment un sens d'avoir changé dans un quartier de Rabat les noms des rues en noms de femmes, politiques, artistes, etc. voilà, des femmes qui ont marqué l'histoire pour lutter justement contre cette invisibilisation toujours. Donc voilà, et donc les violences sexistes et sexuelles, c'est un combat au quotidien. Partout, donc comme je le disais, moi en fait je l'ai pas dit comme ça, mais je suis activiste nomade, donc par le mouvement, en représentant le mouvement ou que moi-même, je collabore avec beaucoup d'associations, collectifs et activistes un peu partout, et ces violences sexistes et sexuelles sont les luttes voilà de toutes au quotidien. Et pour faire passer ce message, par exemple, pour parler encore des actions qu'on fait, pour dénoncer ces violences sexistes et sexuelles, et quand je dis violence sexiste, c'est toute forme de violence, nous avons organisé en mars 2019, pour la journée du 8 mars, non, 25 novembre, pardon, 2019, le 25 novembre, je me perds, 25 novembre 2017, la Journée internationale de lutte contre les violences à l'encontre des femmes, nous avions organisé une action artistique, on va dire, enfin performance, où nous avons coloré en rouge toutes les fontaines de Rabat. Voilà. Donc c'est la symbolique était là, était forte. Et pareil, cette manière originale de faire a beaucoup marqué les esprits et a fait grand bruit au sein de l'opinion publique, des médias. Et c'était l'objectif pour véhiculer. Le rouge était en même temps le symbole des règles et en même temps le sang qui coule de ces violences. Et les autorités marocaines n'ont pas du tout apprécié. Donc, j'imagine. Un autre communiqué, les autorités ont fait un contre-communiqué qui nous desservait complètement, qui décrédibilisait nos luttes, qui décrédibilisait le mouvement, etc. Voilà, donc dans ces violences-là, elles sont malheureusement nombreuses. Hein, donc effectivement, c'est la lutte contre la culture du viol, la culture de la pédocriminalité sexuelle. Et notamment, en ce qui concerne le Maroc, le viol institutionnalisé, comme je disais tout à l'heure, que ce soit le viol conjugal, mais que ce soit aussi la pédocriminalité, parce que... le code de la famille, il existe un code de la famille, mais qui n'a pas été réformé depuis 2004, donc il est un peu vieux, quoi. Il a pris la poussière. Et le mariage des personnes mineures est interdit. Hein, le mariage, c'est à l'âge de 18 ans. Mais le système étant ce qu'il est, patriarcal et machiste et imprégné de cette culture pédo, quoi. Eh ben, les juges distribuent des dérogations aux pères, aux tuteurs, bref, aux hommes. Et donc, il y a des mineurs qui sont mariés à des hommes adultes. Et puis 99% en fait sont des filles. Hein. Donc voilà, 99% sont des filles. Et encore, moi, je me demande si dans le 1% des garçons, s'ils ne sont pas des garçons mariés plutôt à des filles de leur âge. Hein. Moi, je ne m'imagine pas un garçon de 13 ans marié à une dame de 50 ou 60 ans.
Moi non plus, je pense pas.
Donc voilà, par ces lois et ces accommodations, bah, l'État distribue finalement des permis de violer, véhicule cette culture du viol, véhicule le victim blaming, c'est-à-dire voilà, vraiment blâmer les victimes. On sait que c'est malheureusement voilà, mondial, on voit ce qui se passe en France et on ne croit pas les victimes.
Ouais, c'est universel.
Et voilà, et tout à fait. Tous ces hommes sont étrangement innocents. Mais voilà, ça laisse place à une impunité totale. Et donc, c'est, voilà, ça fait partie vraiment de nos luttes contre la justice, quoi. Masculiniste et qui opprime filles et femmes par leur loi patriarcale. Le harcèlement sexuel est quelque chose aussi de très très fréquent dans l'espace public, mais pas que au Maroc. Et le harcèlement sexuel est à prendre au sérieux. Le harcèlement sexuel est une agression sexuelle. Ça fait partie des violences sexuelles. Le harcèlement sexuel peut aussi être une exploitation sexuelle. Il y a des grosses affaires en ce moment au Maroc qui sont très médiatisées à l'international, qui secouent beaucoup l'opinion publique. C'est au sein des universités et donc les enseignants, donc encore des hommes, qui harcèlent sexuellement les étudiantes contre des bonnes notes ou pour valider leur semestre. Mmh. Et du coup, là, c'est carrément de l'exploitation sexuelle. C'est-à-dire, on va faire ci, tu as une bonne note. Donc, ça demande des fellations. Il y a un enseignant qui a carrément fait visionner un film à caractère pornocriminel, enfin, une vidéo à caractère pornocriminel à une étudiante contre des bonnes notes. Donc, voilà, il faut faire la même chose, les mêmes positions, etc. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose aussi que, qu'il faut...
C'est bien que ce soit enfin sorti.
C'est pas récent. Ouais. Moi, ce que je voudrais, je veux dire, oui, il y a des dénonciations, il y a beaucoup de témoignages, c'est très bien. Il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux aussi. Mmh. C'est nécessaire, mais il faut nommer les choses. Voilà. Mmh. Moi, ce que je demande aux féministes, aux associations, c'est souvent c'est pas nommé.
Mmh. On les appelle pas parce que
il y a les symptômes, donc ce sont les symptômes, mais on n'a pas, si on a des symptômes, comment on peut les soigner, les guérir si on nomme pas la maladie, quoi. Donc si on n'a pas un diagnostic, si on n'a pas les causes, si on nomme pas non plus les causes. Donc voilà, donc il faut nommer les choses. Moi, je dis toujours « name the problem, male violence ». Donc ce sont des violences masculines machistes.
L'oppression, la domination.
Oui, mais tout ce qu'il y a, d'où ça vient, tout ce qu'il y a derrière, tout à fait. Donc pourquoi l'oppression, le fait que les hommes ont quand même une éducation différente, de privilégier par rapport à la sexualité, c'est pas la même. On éduque les filles et les femmes à donner, à ne pas dire non. Les hommes, apprendre, les garçons, les hommes apprendre. Et justement, j'arrête pas de dire, les femmes ne sont ni à vendre ni à prendre. Donc voilà, donc en fait, les femmes... sont réduites à des produits de consommation, sont réduites à des marchandises, sont déshumanisées. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'essaye aussi avec les personnes de Mali, d'autres féministes, d'autres collectifs de démocratisés. Je fais donc partie du collectif Abolition Porno-Prostitution. Et donc c'est un collectif qui a pris naissance en France, au Pays Basque, plus exactement. Et c'est le premier collectif de survivantes de porno-prostitution. Et de survivantes, donc de...
Au Pays Basque, qui s'est créé.
Qui s'est créé, mais maintenant, il est donc en France et il est partout. Il y a des féministes de partout. Et Mali est partenaire,
d'accord,
en plus. Et donc voilà, donc c'est des actions et des campagnes qui sont menées par le CAP contre le proxénétisme, la traite des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle, bref, la traite des êtres humains, parce qu'il faut savoir que 95% des victimes de traite des êtres humains sont des filles et des femmes au niveau mondial. Et majoritairement à des fins d'exploitation sexuelle. Ce sont des chiffres qu'on peut retrouver sur le net de plusieurs institutions, d'organisations. Hein, je ne sors pas ça de mon chapeau. Hein. Et donc voilà, et donc, pour rester sur la France, on est évidemment en faveur de la loi abolitionniste du 13 avril 2016. Et on lutte pour l'application de cette loi parce qu'elle est mal appliquée, qu'il y ait une phase 2 de cette loi et d'essayer de mettre en avant, mais c'est très très dur, très compliqué, parce qu'en face il y a un gros lobby, voilà. Et donc c'est vrai que quand on est abolitionniste, c'est compliqué de faire passer nos messages, on est silencié, on donne pas la parole. Pourtant c'est un collectif de survivants, donc survivantes
qui sont elles-mêmes agressées,
c'est
incroyable,
dans la prostitution, dans la pornographie, etc. Il y en a qui sont encore dans ce système, et donc voilà, et il faut dénoncer, et c'est ce qu'on essaie de faire, de dénoncer ce système qui est sexiste, hein. Comme je disais, la majorité des femmes, la majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes, c'est un système classiste, ce sont quand même des personnes de classe sociale faible, ce sont des personnes migrantes, ce sont c'est colonialiste, c'est raciste, capitaliste. Moi, je suis très, très étonnée de voir des féministes ou des militants, en règle générale, des militantes anticoloniales, antiracisme, anticapitalistes, défendre.
Ouais. C'est vraiment ignoble.
Il faut voir la réalité en face, et elle est mondiale. C'est toujours des pauvres. Je sais pas, je trouve ça quand même hallucinant, en plus d'être d'un système pédocriminel, parce que ce qui intéresse les clients prostitueurs, clients entre guillemets, c'est quand même les femmes et les filles jeunes, de plus en plus jeunes, et d'ailleurs les proxénètes, les réseaux mafieux, Vont vers les jeunes. L'âge moyen d'entrer dans la prostitution est de 13-14 ans. Ce n'est pas moi non
bien
plus
sûr.
Qui le dit. Puis
c'est un fait.
Il y a des chiffres là. Voilà, il y a des
la pornocriminalité, c'est une filière de recrutement de la prostitution.
Mais moi, là, je parle directement de la prostitution.
Oui, oui, voilà.
C'est aussi, c'est 13-14 ans. La pornocriminalité, c'est 12 ans. C'est 12,8 ans. Les enfants sont âgés de 12,8 ans quand c'est leur, entre guillemets, début dans la pornocriminalité. Et donc voilà, donc du coup c'est vrai que c'est une lutte fondamentale dans le sens où quand on lutte contre les autres violences, on le voit dans le harcèlement sexuel, dans tout ça, dans la culture du viol, ce qu'on appelle le revenge porn, entre guillemets, moi je dis s'il s'agit de porno-divulgation, on voit bien l'influence quand même de tout ce qui est porno et prostitution.
Bien sûr.
Donc on peut pas diviser les deux, en tout cas l'ensemble des libres, quoi. C'est interdépendant.
On peut pas ne pas lutter contre quoi, c'est ça consacre.
Indivisible et interdépendant. Et puis on peut parler quand on parle d'exploitation du corps des femmes, il y a aussi donc ce qu'on appelle la GPA, l'agitation pour autrui. Donc voilà, donc c'est le même principe. Donc encore exploiter les femmes, leur capacité reproductive. Ce sont souvent des femmes pauvres. On connaît pas beaucoup de femmes, on va dire riches, en tout cas qui viennent de milieux aisés, etc., qui ont des professions, voilà, qui sont avocates, chirurgiennes, etc., qui vont louer le utérus, etc., avec toutes les conséquences que ça importe. Moi, je suis choquée de voir, comme je disais, des gens de gauche, des gens de parti écolo défendre l'exploitation des femmes et des enfants et la marchandisation finalement des enfants et la vente, quoi. Enfin,
C'est terriblement. Moi, c'est ce qui me déprime le plus.
C'est terrible. Et ce qui est déprimant, c'est de voir que dans les médias,
on ne relaye que ces discours-là.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Et voilà, donc j'ai un peu dit ce qu'il fallait dire.
Et sinon, j'ai vu que sur ton titre sur Facebook, tu te nommes toi-même une femme scandaleuse. Donc est-ce que ça n'a pas des conséquences? Est-ce que ça ne fait pas peur d'être à contre-courant?
À contre-courant.
À contre-courant.
J'aime bien ce jeu de mots.
Voilà.
Alors oui, c'est compliqué. J'ai très longtemps été ostracisée, etc. J'ai subi beaucoup de campagnes de cyber-violence, de harcèlement, de menaces, de viols, de morts. Un peu moins depuis 2 ans parce que justement, on s'en rend pas compte, mais ça a duré quand même près de 10 ans de harcèlement à chaque fois que... Quoi que je fasse, je vais donner un exemple. Il y a cette hypocrisie sociale au Maroc, comme je disais, puis qui touche surtout les femmes, qui ne doivent pas faire ci, faire ça. On ne doit pas fumer, on ne doit pas boire d'alcool. Bon, c'est pas bien non plus pour les hommes, mais c'est pas pareil, voilà, comme à l'époque en France. Ça c'était pas au nom de Mali, hein, c'est Betty la scandaleuse. Et j'avais pris une photo de moi devant le Parlement en 2014 avec une bière dans une main et une cigarette dans l'autre, voilà. Et c'était un acte militant, évidemment, pour dire que les femmes, on ne doit pas les cantonner à des préjugés, stéréotypes sexistes, des injures parce qu'elles fument, alors que beaucoup de femmes le font et qu'effectivement on doit le faire cacher, etc. Puis l'hypocrisie surtout de l'État marocain qui se fait l'économie sans la consommation d'alcool et la vente d'alcool, je veux dire l'économie marocaine serait en ruine, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc du coup c'était pour lutter, pour faire passer ces nombreux messages. Et voilà, et cette photo a fait scandale à une des journaux, j'ai été attaquée de toutes parts, même par des politiques, etc.
À ce point-là, ouais, d'accord.
Voilà, donc du coup c'est compliqué, mais vraiment c'est tout le temps des choses, même quand il y a rien, quoi. Je fréquentais les fémènes, j'ai jamais été fémène. Je les ai toujours admirées pour leur courage, etc. Et quand il y a eu, en 2013, le mariage pour les personnes homosexuelles, j'avais pris des photos avec les fémènes. Et puis ça a fait la une des journaux au Maroc. J'étais pas nue, hein, seins nus, mais on a dit, parce que ça fait du clic et ça fait vendre. Le titre, c'était Betty Lashgar, la mi-temps de Betty Lashgar, c'est dénudé avec les femelles. Voilà. Donc bien sûr, les gens ne lisent que les titres. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment plein de choses comme cela. Bien sûr, en 2009, bon, ça c'est j'avais envie de dire entre guillemets normal, parce que c'était la première action et que gros bruit et on touche au Ramadan, la religion. Donc ça, c'était ouais, terrible. Mais voilà, c'est à chaque fois, il y a des diffamations, des calomnies et parfois même de la part de personnes avec qui j'ai milité. Ça c'est
terrible.
C'est terrible, quoi. C'est des trahisons, voilà, que je n'arrive pas à expliquer et que je n'arrive
pas. Parce qu'elles ont peur, peut-être.
Je sais pas, mais en tout cas, voilà, donc il y a eu des arrestations, de nombreuses arrestations. Qu'est-ce qu'on nous colle quand on est arrêté, surtout quand on est une femme d'ailleurs, mais pas que. C'est ivresse sur la voie publique, alors que voilà, ce sont des arrestations militantes, et on doit nous coller quelque chose, et surtout à moi, et puis parce que comme ça décrédibilise ma lutte, et ça salit mon image, hein, de dire c'est une femme qui boit, etc. Donc il y a eu ça. Sachant que la plupart du temps où j'ai été arrêtée, c'est moi qui suis allée au commissariat pour porter plainte, hein, parce que j'ai été victime d'agression ou de violence. C'était le cas en 2018, par exemple, pour ne citer que cette arrestation-là, je ne peux pas raconter toutes les autres, et en 2018, j'ai été agressée par des jeunes hommes, je ne sais même pas s'ils étaient adolescents, d'ailleurs de jeunes adultes, mais je ne sais pas s'ils étaient peut-être même ados, et qui m'avaient agressée avec un couteau. J'étais avec un ami, on rentrait le soir, et par rapport à ma lutte en faveur des libertés individuelles et surtout contre l'homophobie, puisque c'était tu luttes pour les droits des PD, en arabe, mais l'équivalent de PD, etc. Et j'ai pas pu rentrer chez moi. Et donc, du coup, c'était le soir, donc, tard, et je suis allée au commissariat et on m'a dit, parce qu'on me connaît et qu'on attend que ça, hein. Quelque part, je me jette dans la gueule du loup, puisque là, les autorités n'attendent que ça. Et donc, on me dit, de toute façon, ils ont raison, et de toute façon, c'est toi qu'on arrête parce que tu as consommé de l'alcool.
Ah ouais.
Voilà. Et donc, du coup, en 2016, deux ans avant, il y a eu une arrestation. Bon, je ne vais pas raconter les circonstances, mais j'ai été agressée sexuellement par trois policiers parce que j'avais caché mon téléphone dans ma culotte. C'était l'été, je portais une robe. Et donc, ils ont soulevé ma robe. Donc, deux m'ont jeté sur un bureau pour me tenir les bras. Le troisième a soulevé ma robe, baissé ma culotte pour prendre le téléphone et me dire, en tout cas, on a vu. Je dis exactement ce qu'on m'a dit. Enfin, je vous traduis littéralement. En tout cas, on a vu ta chatte. Voilà. Donc, heureusement, je suis très, très forte, c'est vrai, et qu'à chaque arrestation, j'ai fait des scandales, j'ai hurlé,
j'ai toujours pas lâché.
Je n'ai jamais lâché, j'ai toujours été grande gueule, et je le suis aussi quand je suis en garde à vue à l'encontre des policiers qui tiennent des propos, mais vraiment immondes, des propos complètement archaïques, misogynes, homophobes, lesbophobes. Vraiment, c'est terrible. Mais voilà, pour la petite histoire. Suite à cette agression sexuelle, en garde à vue, c'est moi qui ai été poursuivie et qui ai écopé de 1 mois avec sursis pour avoir violenté, je suis 1m56, enfin bon, bref.
Ah ouais,
et je suis en situation de handicap en plus, mais bon. Et donc, pour avoir violenté, violence et, sur agent, outrage, agent, en fonction, je sais pas quoi, là. Dans le cadre de ses fonctions. C'est pas évident. Ce qui est aussi.
T'as aucun refuge, tu te fais agresser, tu te fais. En plus, tu peux pas te faire.
Mais ce qui me fait le plus pas mal, parce que c'est ce qui me déçoit et qui m'indigne, c'est de voir que beaucoup de personnes de gauche, femmes comme hommes, et des féministes ne me soutiennent pas en fait dans tout ce que je subis. Et par exemple, quand il y a eu cette agression sexuelle, et j'en ai parlé dans les médias, et certains médias en ont parlé au Maroc, mais en France aussi, et pas que. L'Obs avait fait un papier en France. Aucune association féministe. Bien sûr qu'il y a eu des féministes indépendantes qui ont soutenu, qui étaient révoltées, qui en ont parlé. Je parle d'associations, donc organisation qui a une existence juridique et n'a condamné ce que j'ai vécu, ne m'a soutenue, n'a fait un communiqué de presse. Ouais. Aucune.
Mais pourtant,
parce que c'est ce que je représente. Je représente une femme folle.
Mais c'est hystérique, hyper choquant.
Hérétique. Pas prise au sérieux, provocatrice. Et j'ai envie de dire, quand bien même je serais tout cela. Je dénonce une agression quand même sexuelle.
Tout à fait,
Donc, les associations doivent mettre de côté ce qu'elles pensent de mon activisme ou de ma personne. Voilà, donc ça, il n'y a pas eu. Il y a eu beaucoup d'associations du monde mais pas du Maroc.
Ah oui, oui, pas du Maroc. Donc, mais du monde, il y en a eu qui t'ont soutenu quand même.
Oui, oui, il y en a eu, il y en a eu pas mal. Et puis voilà, donc une des conséquences aussi, c'est vraiment, voilà, je suis victime de cancel culture, comme on dit, hein, ce jour. Bon, moi, je vais dire de censure, donc ça m'est arrivé, et ça continue. Ouais, donc, ça aussi, c'est douloureux, parce qu'on
t'as accusé de...
Oui, on invisibilise et on efface les femmes, et on efface... Enfin, voilà, moi, je le sens comme ça, donc on m'invisibilise, on efface mes luttes, mes engagements, comme on efface... Voilà, les engagements et luttes des femmes, leurs travaux, leurs créations, leur savoir. Je vais raconter une petite anecdote, parce qu'elle est d'actualité. Je suis psychologue clinicienne spécialisée en victimo, enfin, en criminologie, et particulièrement... Donc, je l'avais dit, en violence sexuelle et les viols, où j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc voilà, donc j'ai étudié pendant 15 ans. C'est vrai que je ne le mets pas en avant, hein. Mais là, j'en parle parce que vu ce que je subis, donc là, j'en parle. Peut-être qu'il aurait fallu que j'en parle depuis une dizaine d'années. Et voilà, c'est 15 années d'études, c'est 20 ans de terrain, de recherche, d'expérience professionnelle, de mémoire, de thèse. Enfin, c'est mon travail, en fait. Hein. Et non, au Maroc, on ne donne pas la parole pour parler de ces sujets-là, alors que pour certains et certaines qui savent que c'est mon domaine d'expertise, parce que
ils font exprès,
c'est ce que je représente.
Hein, tout à fait.
C'est-à-dire que du coup, mon activisme, mes idées, mes positionnements, mes façons de faire, etc., voilà, décrédibilise ma profession et mon parcours académique. Ça fait pas sérieux. Voilà, je ne fais pas sérieuse. Et de toute façon, ça a toujours été comme ça. Quand c'est pas ce que je dis ou ce que j'écris ou comment je le fais, ça a été mon look parce que je porte des serwells. J'avais le crâne rasé il y a pas longtemps, pendant un an et demi. Donc c'est grave. Il y a toujours, on trouvera toujours quelque chose pour silencier les femmes qui sont libres et qui sont grandes gueules,
bah,
et qui
lutte,
appellent à l'émancipation des femmes sans la validation des hommes. Je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est ce féminisme-là où on dit que la lutte pour les droits des femmes et le féminisme, c'est une lutte pour l'émancipation des femmes, la liberté des femmes. Donc, c'est une lutte par les femmes, pour les femmes. Et quand on dit ça et qu'on dit qu'on n'a pas besoin de la validation des hommes, qu'on n'a pas besoin qu'il
ait... À la limite, ils peuvent soutenir, mais...
Ce sont des alliés,
pas,
tout
voilà,
à fait.
C'est ça.
Qu'on n'a pas besoin d'avoir des catégories des oppresseurs, etc. Voilà, c'est pas compris. On devient des femmes misandres. On nous sort les notes all men, hein, pas tous les hommes, etc. Mais nous, on n'a pas dit que tous les hommes étaient violeurs. Hein, c'est pas ce qu'on dit. Mais tous les hommes ont eu une éducation. C'est une réalité. C'est une réalité. Et une construction... qui fait que, voilà, on ne peut pas nier ça, je veux dire, c'est factuel. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, bon, bref, j'ai tout vu, hystérique, etc. Et voilà, et donc il faut rester dans un militantisme lisse, dans la bien-pensance, dans le politiquement correct, tout ce qui n'est pas moi, quoi. Et moi, je dis que
tout bah, dans le féminisme qui ne remettrait pas en question le patriarcat.
Que toute cette bien-pensance, etc., ça profite toujours aux hommes, ça profite toujours au patriarcat. Et que je sache, on ne lutte pas contre les violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Les violences machistes et misogynes avec des coquillons, des fleurs. Voilà, donc non, c'est... Ouais, nous ne sommes pas des paillassons. Enfin, moi, je le dis souvent, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Et que c'est pour ça qu'on invalide mes luttes et mes dires et ce sont et puis on voit les femmes aussi, hein, là depuis 2-3 jours je suis victime d'une cabale encore de harcèlement parce que par rapport à ce qui se passe au Maroc, les cyber les violences sexuelles au sein des universités,
t'as parlé tout à l'heure,
j'ai dénoncé une la couverture d'un magazine soi-disant satirique où on voit une scène complètement pornocriminelle, violente, où un homme tire une femme par les cheveux et ça fait une espèce de jeu de mots complètement raté, misogyne, sexiste, qui participe à la culture du viol. Doit-on en finir avec les épreuves orales. Donc j'ai dénoncé ça sur les réseaux sociaux, en mon nom et au nom du mouvement. Enfin, d'ailleurs, c'est plus au nom du mouvement. J'ai repris le poste du mouvement sur mon compte perso. Et là, voilà, quoi, c'est parti, que je suis une hystérique, que j'ai pas d'humour, que je comprends rien, que je suis une pseudo-féministe, qu'on peut rire de tout, que de toute façon, si je ris de Charlie Hebdo, donc voilà, on a fait des comparaisons, rien à voir, en sortant les religions. Encore une fois, les religions sont des idées, des idéologies. Donc oui, je suis pour qu'on se moque des religions. Là, on parle de culture de violence, de violence sexiste, de violence contre les femmes. Non, ça, c'est pas de l'humour. L'humour sexiste n'est pas de l'humour. Il n'y a pas de blague sexiste. La culture du viol, se moquer de viol, non. Et pourtant, c'était bien explicité dans mon poste. Et voilà, et donc, on me dit que derrière ce magazine, c'est une femme, et donc c'est elle qui a pas arrêté de m'insulter sur les réseaux, là, et de lancer cette cabale. Et voilà, et donc, sont encore les femmes, ou certaines femmes en tout cas, qui tombent dans des stratégies, enfin voilà, bien qui sont victimes de stratégies patriarcales et masculinistes, et qui discrédite du coup d'autres
qu'on
femmes
qu'on utilise pour te discréditer
d'autres femmes, les diviser, les opprimer, parce que pourquoi cette personne n'a pas repris les postes de d'hommes. Il y a aussi des hommes qui ont dénoncé leur couverture pas drôle là. Voilà, pourquoi une femme, pourquoi en plus une féministe qui se met en danger, qui etc, qui est déjà exposée, enfin je sais pas, je trouve ça très très violent. Et donc voilà, donc ça serait un peu ma conclusion, de dire que encore une fois, lorsqu'on est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui mène des actions et des campagnes et qui est sur le terrain au quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des accompagnements aussi. On accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les copines, les femmes victimes de violences, les femmes en situation de prostitution. Et c'est un travail au quotidien et on les écoute et on fait le nécessaire. Et voilà, mais voilà, on ne reconnaît pas tout ça parce que
vous êtes trop dérangeante.
Parce que voilà, quand on dérange, mais ça veut dire qu'on a raison.
Bien sûr, mais c'est ce que j'allais dire en fait.
De toute façon,
on trouvera
toujours quelque chose, soit on est une femme grossière, voilà. Soit on est une femme aux mœurs légères.
En fait, c'est que t'as tapé dans le mille, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Ça veut dire que si tu reçois toutes ces attaques, c'est qu'en fait, ça.
Voilà, bah c'est en tout cas, moi j'ai envie de répondre à ces personnes que force est de constater qu'à travers l'histoire, ce n'est pas avec de la pédagogie, des sourires, de la douceur, de la patience,
obtenu,
que les femmes ont gagné des droits et du respect. Et donc, je le dis, aucune concession avec le patriarcat. Et juste pour le petit mot de la fin, les accusations que j'ai régulièrement de misandre, de mort aux hommes, soi-disant, etc., etc., je suis souvent victime, et je l'ai été il n'y a pas longtemps, de menaces et de cyberharcèlement parce que je lutte contre la peine de mort. Et donc, je trouve ça assez... je trouve ça contradictoire, alors même que je suis contre la peine capitale de ces mêmes hommes qui sont des agresseurs, violeurs, pédocriminels, assassins, qu'on puisse dire que du coup, moi, je veux la mort des hommes. Donc, voilà, c'était la petite phrase de fin. Et je voulais surtout te remercier de m'avoir donné la parole.
C'est moi qui te remercie. Voilà. Et en fait, j'espère que tu auras envie de revenir parce que tu as tellement de choses à dire que tu n'as pas eu le temps.
Parce qu'on avait décidé, toi et moi, de résumer un petit peu
tout.
Et puis après, effectivement, je pourrais revenir avec plaisir avec d'autres camarades et d'autres copines féministes pour parler d'un thème particulier et essayer de développer, parce que là
il y a tellement de choses à dire.
Là, c'était un peu
on a un peu voulu parcourir
c'était
tous les thèmes et c'est vrai que tu t'occupes de tout
oui de plusieurs
et
voilà,
je sais pas
plusieurs
voilà
causes, on va dire
ouais.
plusieurs causes et sur plusieurs
ouais,
terrains
ouais, ouais, ouais.
Merci encore en tout cas.
Merci à toi et du coup je vais finir c'est l'heure, je vais finir en remettant l'hymne des femmes parce que voilà c'est trop beau.